La conférence, elle dit changement climatique. Et donc le CILS, qui a été créé en 1973 par les États membres qui ont été affectés par la sécheresse à l'époque, d'où il y a eu décimation de personnes du cheptel, ont décidé de s'organiser, de créer une institution qui va les aider à comprendre et à gérer le phénomène du changement climatique. Donc depuis lors, le CILS s'est investi, il a commandé ça, il s'investit dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la désertification, le changement climatique, l'adaptation et l'adaptabilité à ce changement climatique, la résilience, problèmes liés à l'eau, à la sécheresse, ainsi de suite. Bref, donc, quand on dit une conférence sur le changement climatique, le CILS ne peut qu'être là, c'est-à-dire c'est sa raison même d'être. Et ici, l'intérêt dans ça, c'est que il y a plus d'une, de 25 000 à 30 000 personnes qui descendent à cette conférence. Et il y a des opportunités, d'abord d'échanges, de discussions, de se faire connaître. Le CILS est connu dans la sous-région, mais aussi sur le niveau mondial, il est connu par l'Organisation mondiale de la météorologie, par les bailleurs de fonds, mais ça a fait toujours du bien de venir et de partager avec tout ce monde-là. Qu'est-ce que le CILS a pu faire pendant...
Mais justement, je vous repose la question, qu'est-ce que le CILS a fait ou bien compte faire?
Le CILS, justement, en matière de ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire depuis la catastrophe, depuis sa création jusqu'à nos jours, le CILS s'est organisé avec à créer un réseau, ce qu'on appelle le réseau de prévention des crises alimentaires. C'est-à-dire, en dehors de l'appui technique qu'il apporte aux États, aux projets, il y a ce réseau-là qui est fort de 30 années. Et ce réseau est fait du CILS, de la CEDEA, de l'UEMOA, de tous ceux qui gravitent autour de la région, de tous les États membres du CILS, de tous les États membres de la CEDEA, plus c'est un réseau international, un réseau mondial, qui regroupe nos décideurs, nos bailleurs, qu'ensemble nous faisons l'évaluation, par exemple, des saisons hivernales, de la contre-saison, et après analyse, nous sortons des avis. Et ces avis vont à l'endroit de tout ce monde-là qui est dans la dynamique sous-régionale, pour dire, et à l'endroit aussi des décideurs, à l'endroit aussi de nos partenaires, pour dire, par exemple, après la campagne hivernale, nous avons 56 millions de tonnes. Sur les 56 millions de tonnes, il y a... et maintenant, nous regardons plus ou moins la distribution des personnes qui sont affectées, qui n'ont pas suffisamment à manger. Nous disons, cette frange de la population sera affectée à tel degré, et il faudrait qu'on s'organise, donc, que les États investissent dans tel endroit, que les bailleurs investissent dans tel endroit. Ça, c'est en dehors de ce réseau. C'est-à-dire, maintenant, techniquement, le CILS, ce que le CILS fait, c'est-à-dire le CILS appuie ces États en leur fournissant des connaissances.
Donc cette année, vous avez appuyé quelques pays membres?
C'est tous les pays. Le CILS tourne dans la zone, dans la région de 17 pays, la CEDEAO, l'UEMOA et le CILS. Le CILS a 13 États. Donc dans ces États se trouvent les États de l'UEMOA et il reste 4 pays anglophones.
Vous pouvez nous donner des exemples des pays que vous avez soutenus en 2017?
Bon, mais moi je vais vous citer tous les 13 États et plus les autres 4. C'est-à-dire, si on commence par les 6 pays purs et durs du Sahel, c'est-à-dire c'est la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Ça, c'est les 6 pays qui ont créé le CILS. À cela, ils sont ajoutés donc, le Cap-Vert, et la Guinée-Bissau et la Gambie. Maintenant, tout récemment, donc, ça faisait 9 jusqu'à 2012. Et retenez bien, les pays côtiers qui, à l'époque, pensaient qu'ils avaient suffisamment de l'eau, ils n'avaient pas nos problèmes sahéliens.
Ils sont confrontés au phénomène d'érosion côtière, notamment.
Non seulement l'érosion côtière, les septentrions de ces États-là a commencé à brunir, comme le Sahel. Et donc, du coup, les gens se disent, mais attendez, là, qu'est-ce qu'on doit faire?
Pensez au Bénin, par exemple.
Oui, mais le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée se sont donc ajoutés au CILS. Ils sont maintenant devenus membres du CILS. Et donc, les connaissances que le CILS a acquises pendant tout ce temps, nous sommes en train donc de renforcer la capacité de nos États à comprendre, à prendre en charge la dynamique de cette sécurité alimentaire, de ce changement climatique, nous avons des connaissances dans la gestion des ressources naturelles, nous avons des connaissances dans la gestion liée à l'eau, nous avons des connaissances dans la formation, nous avons formé suffisamment de nos cadres, il y a plus de 1400 cadres formés, ceux-là sont reversés dans la fonction publique, il y a quelques-uns qui s'installent pour leur compte, mais voilà plus ou moins une quintessence de manière à ramasser ce que le CILS fait. Plus, le CILS s'assure qu'effectivement les connaissances sont mises à l'endroit des décideurs, à l'endroit des producteurs, à l'endroit de la fonction publique et à l'endroit de nos bailleurs pour que nous puissions aller vers la levée des fonds. Et c'est pour ça que nous avons en ce moment des gros projets financés par la Banque mondiale, le pastoralisme, l'irrigation, Banque mondiale, la résilience, la Banque africaine de développement et la BID, et puis l'USAID et les autres partenaires.
Ouais, pendant les discussions en atelier, quel projet vous aviez présenté aux participants?
Bon, ici, par exemple, nous avons un side event. Le side event a focalisé les efforts sur ce que, c'est-à-dire le CILS a bénéficié d'un financement GCCA. Et nous avons donc généré des connaissances extrêmement importantes. En quoi? Ces connaissances, c'est-à-dire nous avons aidé les pays dans leur NDC, nous avons formé 300 experts et nous avons formé des négociateurs climat. Et nous avons aussi, il y a 7 pays qui ont bénéficié de la mise en œuvre de ce projet et plus les 300 que nous avons formés. Maintenant, c'est-à-dire sans compter naturellement les connaissances acquises, les rendements qui ont augmenté dans le terroir, la gestion du terroir ainsi de suite, la gestion des ressources naturelles. Maintenant, ce que nous avons dit, nous avons présenté, voici l'expérience du CILS en matière de gestion des problèmes liés au changement climatique. Dans le GCCA+, qui doit suivre le GCCA, nous allons mettre à l'échelle ces connaissances que nous avons acquises. Nous allons former davantage de nationaux qui, eux, à leur tour, vont prendre en charge la question du changement climatique et intégrer ça dans la programmation nationale et se positionner oui, pour monter des projets bancables. Donc, c'est vraiment des connaissances qui sont acquises, qui vont être partagées. Et on va former davantage nos États et nous allons les aider à intégrer la dynamique changement climatique dans leur programmation.
Est-ce que vous avez parlé de la problématique de la faim dans les pays membres du CILS?
Oui, disons que quand on dit s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est effectivement la quintessence même, n'est-ce pas, de l'existence du CILS. Ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire que de manière collective, nous servons, si vous voulez, de conduit, et nous nous trouvons autour de la table avec tous les bailleurs, avec tous nos États, et nous disons, étant donné qu'il ne pleut pas suffisamment bien dans cette région, nous ne pouvons pas seulement dépendre de la pluviométrie. Et même si elle arrive, elle est mal répartie dans le temps et dans l'espace. D'où le besoin d'aller dans le sous-sol chercher de l'eau. Et à titre, comme je vais vous donner une statistique extrêmement importante, parce que moins de 3% de nos terres disponibles sont irriguées. Les terres disponibles pour l'irrigation, moins de 3% sont irriguées. Donc, fort heureusement, maintenant, il y a la Banque mondiale qui elle a dit, l'irrigation, l'eau au Sahel. Donc, on commence avec 6 pays. Il y a la coalition mondiale sur l'eau au Sahel, pilotée par la Banque africaine de développement. Donc, nous sommes en train de mettre ça ensemble pour qu'effectivement, on va à l'envergure pour que nous puissions prendre à bras le corps le problème lié à l'eau. C'est-à-dire qu'il faut la sortir du sous-sol, d'accord. Il faut l'utiliser pour produire 2 fois, 3 fois, 4 fois par an, pour produire suffisamment pour manger abondamment, transformer cette production, l'excédent, créer des richesses et de l'emploi. C'est le problème le plus sérieux encore parce qu'il y a la jeunesse qui sort avec des diplômes sans emploi et il faut trouver un moyen honorable à cette jeunesse-là de gagner sa vie que de se déverser dans le banditisme, le tourisme et les coupeurs de route.
Sauf à me tromper, le CILS a soutenu plusieurs projets présentés par les pays membres, dont le Tchad, avec le projet de la ceinture verte. Où en est-on avec ce projet?
Oui, c'est-à-dire, hier, nous avons aussi pris part dans le side event de la Grande Muraille Verte. C'est-à-dire, la Grande Muraille Verte, elle fait, disons, 15 km de large, 15 000 km, disons, de long. Et tout au long, ça commence de l'est vers l'ouest.
Et c'est un projet qui est dans les tiroirs depuis.
Oh non, et ce projet de terroir, il n'est pas nécessairement dans les tiroirs. C'est-à-dire, nous, ce que nous faisons vient en appui au concept de cette grande muraille verte. C'est-à-dire, cette grande muraille verte, initialement, je crois que les gens ne l'ont pas peut-être bien compris. Parce que les gens estimaient qu'il faut planter des arbres et puis on s'en va. Non, si on plante un arbre, c'est-à-dire, non, il faut faire en sorte qu'on dérive un mode de vie. C'est-à-dire qu'il faut le considérer comme un système de production et un mode de vie. C'est-à-dire qu'on vit dans ce terroir, il faut l'améliorer, il faut qu'il verdisse, il faut qu'il y ait des agrumes, il faut que ça et là, il faut qu'on mange dans ça, il faut qu'on se nourrit dans ça, il faut qu'on s'enrichisse dans ça. Donc pris sous cet angle, je pense que nous avons beaucoup plus maintenant, les gens ont les mentalités ont évolué.
Mais où est-ce qu'on en est avec ce projet concrètement?
Maintenant, c'est-à-dire chaque pays, par exemple, moi, nous au CILS, nous avons des financements pour 7 pays. Et ces pays-là, ces projets-là, beaucoup de ces projets-là se trouvent dans la bande qui est la plus affectée. N'est-ce pas? Donc, chaque pays, on va comptabiliser qu'est-ce que chaque pays est en train de faire. C'est-à-dire, la Grande Muraille Verte, normalement, c'est continental, c'est-à-dire, elle va de l'est à l'ouest. Mais, pris de cet angle, de cet angle-là, risquerait de nous poser des ennuis. Mais il faudrait maintenant qu'on descende sur le terrain pour voir les pays qui ont plus ou moins bouclé leur projet. Et pour ceux-là, ceux qui ont déjà des financements amis de Majid, tant mieux. Ceux qui n'en ont pas, on va donc ensemble, de manière concertée, leur trouver les voies et moyens pour qu'ils puissent se mettre. Et n'oublions pas que les pays aussi doivent mettre la main dans la poche.
Parlant de pays, le Tchad, je demandais où est-ce qu'on en est avec ce projet de ceinture verte de Gawi.
Le Tchad, si on prend le Tchad et on adjoint au Tchad les projets qui sont en ce moment opérationnels de la part du CILS, il y a le pastoralisme. Il y a la résilience financée par la Banque africaine de développement. Il y a l'eau qui viendra bientôt par la Banque mondiale. Il y a la Banque islamique de développement qui, elle aussi, elle est en train de financer les choses. Donc, et des efforts sont en train d'être faits. Je pense que la lecture, on va essayer d'être beaucoup plus subtil ici. La lecture initiale n'a peut-être pas beaucoup servi. Les gens pensaient qu'il fallait planter les arbres et laisser. Non, non, ce n'est pas un problème de planter les arbres. C'est un problème de trouver à comment survivre dans ce climat. Et je crois que partant de là, maintenant, la donne a changé légèrement. Et je pense que, mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits au Tchad, par exemple. C'est-à-dire les gens sont en train de s'organiser, ils ont aussi évolué un peu dans la réflexion. Mais il y a des défis énormes. Défis énormes parce que vous savez, le Tchad fait face à de multiples défis. Mais si vous allez, par exemple, voir plus ou moins certains endroits qui ont réussi à mettre quelque chose sur pied, je pense qu'on évolue beaucoup plus vers la conception d'un mode de vie. Il faut s'organiser afin que nous puissions vivre dans ça, pas seulement planter des arbres et puis les laisser mourir.
Parlant du Tchad, restons-y. Le projet de sauvetage du lac Tchad, est-ce que c'est un projet aussi rangé dans les tiroirs ou bien il est d'actualité?
Non, c'est-à-dire, il y a... Mais vous savez, on ne peut pas ici, à la Deutsche Welle, dire que tous les projets qui ont été conçus après été ont eu des financements. Non. Et si on parle nécessairement du problème du lac Tchad, ce n'est pas seulement le Tchad. Le lac Tchad est énorme, il a ses états riverains.
Il y a eu beaucoup de projets de son sauvetage.
Non, mais justement, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le projet de grande envergure, le drainage des eaux.
De Lubangui-Chari.
Je sais que vous connaissez votre sujet, ça vous intéresse. Moi aussi ça m'intéresse, mais attendons, allons-y doucement. C'est-à-dire, vous savez, quand on prend un tel projet, c'est pas seulement on décide un matin, bon, on va à la source puis on pompe. Vous le savez mieux que moi, c'est-à-dire la politique de chaque pays, la régionalité, ainsi de suite. Donc, cette idée de drainer les eaux de Lubangui-Chari, pour le moment, je pense que les gens ont bougé légèrement déjà parce que, vous savez, le lac Tchad, le bassin du lac Tchad, fait face à d'énormes problèmes. Le terrorisme s'y est installé. Et donc, maintenant, c'est la survie. Comment faire pour que les gens, là, au lieu qu'ils soient chassés de ça et là, réussir à les protéger et à créer des conditions qui peuvent leur permettre de produire et de manger à leur faim. dans un premier temps. Et donc, à cet effet-là, tout récemment, vous êtes en Allemagne, la chancelière a parlé de son plan Marshall. Il y a beaucoup de ressources qui seront plus ou moins orientées vers là. Mais nous sommes en train de nous organiser, c'est-à-dire en synergie avec la commission du bassin du lac Tchad, la BN, le CIS et tous les autres organismes qui opèrent dans la région. C'est-à-dire créer des synergies de sorte que nous puissions mettre quelque chose de plus concret au niveau local pour que ces populations-là, qui sont désœuvrées, puissent trouver leur compte. On reviendra plus tard quand la région aura été stabilisée. On reviendra un peu plus tard pour le drainage des eaux de l'Ubangui-Chari. Je ne manquerai pas de vous faire part quand j'aurai d'autres informations.
Dernière question, ce mercredi, M. Dimiadoum, il y aura donc la réunion dite de haut niveau avec la présence de quelques chefs d'État et de gouvernement africains et même du monde. Quel message le CILS souhaiterait adresser aux participants de cette réunion de haut niveau?
Oui, c'est-à-dire, mais le message est vraiment très simple. Nous partons de l'accord de Paris, nous sommes à Bonn, il faut aller à l'échelle. Il faut mettre les choses en œuvre. C'est-à-dire, il n'a même pas besoin de parler de gros projets, de grande envergure. Il faudrait qu'on voit rapidement au niveau du petit producteur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui apporter l'aide dont il a besoin, ou bien l'assistance dont il a besoin ou dont elle a besoin pour pouvoir sécuriser son mode de vie. Et donc, nous, si parce que, autrement dit, si on se lance dans des projets de grande envergure qui nécessitent beaucoup de moyens, ça va être talk et no action. Et ça, nous ne sommes pas partants. Et donc, mais dans ça aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait que nos chefs d'État, nos gouvernants, viennent avec des propositions par rapport à quelle est la partition de ce qu'ils vont faire. Ils doivent apporter quelque chose à la table. Et maintenant, dire aux autres, nous avons de tels moyens, de telles possibilités, joignons nos forces pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire, il faudrait que les fonds climat vert là, soient aussi disponibles. Et je demande à nos chefs d'État, à nos gouvernants, de se positionner par rapport à ces fonds climat. Et nous allons les former, aider nos États à former des cadres compétents qui doivent monter des projets qui satisfont aux exigences de l'accès au fonds climat vert. Et donc je pense que c'est un message d'espoir, c'est-à-dire et le temps presse parce que le moment est venu pour que nous puissions moderniser nos secteurs de production, n'est-ce pas, agro-silvopastoral et halieutique, créer des richesses et de l'emploi, éviter que les jeunes se perdent et éviter que les femmes aussi trouvent leur compte dans tout ce qui doit être fait. Et il n'y a pas autre solution que d'aller dans ce sens.